Radio Déclic.
Encourager la fraternité. C'est pas quelque chose qu'on peut vivre chaque jour.
Radio Déclic. Radio Déclic.
Radio Déclic. On aime découvrir d'autres cultures.
Ce sont des messages qu'on fait passer.
Fréquence Paris Pluriel 106.3. Eh bien, bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de Radio Déclic 106.3. Et aujourd'hui, 3 mars, Radio Déclic fait son 8 mars. Et oui, bien sûr, puisque le 8 mars, c'est la semaine prochaine, tout le monde l'a compris, mais on n'a pas de diffusion. Donc on a décidé de faire aujourd'hui, de mettre les femmes en valeur et en avant. On commencera, on aura les pépites de CZ. CZ, bonsoir.
Bonsoir Flo, bonsoir à toutes. Et justement, pour cette journée, j'ai une petite surprise pour vous, mesdames, autour de la table.
Alors, on a hâte de savoir. Philo.
Bonsoir Florence, bonsoir tout le monde. Et moi, je vais vous parler de Viola Davis, une femme que j'aime beaucoup en tant qu'actrice, pardon.
Voilà, puis une femme aussi engagée.
Engagée hein. Aussi.
On verra oui, ça vraiment. Tout à l'heure avec toi, et notamment elle s'est fait remarquer aussi aux derniers Oscars.
Oui,
je crois.
Oui.
Trésor.
Eh bien, moi, je vous parlerai des femmes dans les transports en commun.
Voilà. Il y a pas mal de choses à dire aussi à ce niveau-là.
Il y a des trucs hein. À dire.
Georges.
Georges, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on parle d'une femme vraiment merveilleuse qui a joué un rôle très important dans l'éducation, orientation et dans, surtout l'éducation et orientation des femmes pour qu'elles assument et gagnent leur vie par leurs propres moyens.
Et puis, Mehdi, bonsoir.
Bonsoir Florence, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça sera les informations et un point donc, sur le sport féminin.
Et puis moi, j'ai rencontré Samia Orozean, qui est comédienne et humoriste, qui était venue à la salle L'Intrès de Sani pour son spectacle « Femmes de couleur ». Voilà, alors on a dit qu'aujourd'hui Radio Déclic fait son 8 mars. Et puis bah, un petit coucou, un big up à Trésor, qui est une femme, et que c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps.
Tout à fait.
Donc joyeux anniversaire, en retard,
merci.
Mais joyeux anniversaire quand même.
Merci, merci.
Et on anniversaire. Bon anniversaire, voilà. Et on commence tout de suite avec le journal d'information. Avec la page internationale.
Première confrontation entre Donald Trump, plus président des États-Unis que candidat pour une fois, et le pouvoir législatif. Il a prononcé mardi soir devant le Congrès un discours. Il a notamment proposé d'augmenter de 9% le budget de la défense. L'US Army disposera de 54 milliards de dollars l'an prochain. Et puis attardons-nous rapidement sur une image que vous avez sans doute vue passer. Elle a fait le tour des réseaux sociaux. Il s'agit, vous l'aurez deviné, du cliché de la conseillère de Trump, Kellyanne Conway. Elle est assise sur ses genoux dans le bureau ovale, les pieds sur le fauteuil et les yeux rivés sur son téléphone. Tout cela pendant que Trump reçoit des directeurs d'université noire. Cette attitude résume parfaitement le premier mois de Trump au pouvoir. La persécution des Rohingyas continue dans l'ouest de la Birmanie. L'ONU dénonce de multiples crimes contre l'humanité. Selon les témoignages recueillis par Yang Li, l'envoyé spécial de l'Organisation mondiale, des personnes ligotées dans leurs maisons incendiées, des enfants sont brûlés vifs, des familles sont décimées, des adultes sont égorgés et des viols collectifs sont constatés. Bref, que des atrocités. L'armée birmane serait responsable de ce désastre. Les autorités réfutent bien sûr les accusations. L'ONU déplore aussi la situation dramatique au Yémen. La famine fait rage. 7 millions de personnes ont immédiatement besoin d'une assistance alimentaire, dont près de 460 000 enfants. L'Arabie Saoudite, qui dirige la coalition militaire, continue d'entraver les convois humanitaires. Les Saoudiens ont réagi à la déclaration en bombardant plus intensément et notamment le port d'Odeidia situé au bord de la mer Rouge, de quoi affamer davantage la capitale Sanaa. Après le putsch manqué en Turquie contre le président Recep Tayyip Erdogan, un procès géant s'ouvre à Ankara, la capitale. 300 personnes seront sur le banc des accusés. Ils encourent pour certains jusqu'à plus d'une centaine d'années de prison. Autrement dit, ils seront retenus dans les geôles du régime turc, pas des plus confortables toute leur vie. Rodrigo Duterte, président des Philippines, veut relancer la guerre anti-drogue dans son pays. La règle est simple, si vous êtes contrôlé et que vous êtes en possession de ne serait-ce qu'un gramme d'une substance illicite, vous serez condamné à mort. Son plan contre les stupéfiants a déjà fait, depuis son arrivée au pouvoir il y a 8 mois, 7000 morts. Et puis on clôt la page internationale avec l'héritier de l'empire Samsung qui a été arrêté pour corruption. La justice sud-coréenne l'accuse de détournement de fonds et de parjure.
On passe à la page nationale.
Officiellement, le viol n'est pas établi dans l'affaire Théo. Pour les inspecteurs de l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, il n'y a pas de doute, c'est une estocade donnée avec la pointe de la matraque au cours de l'interpellation extrêmement violente de Théo qui a abouti à la pénétration de l'objet dans le rectum du jeune homme. Même la police des polices est visiblement très protectrice envers les fonctionnaires hors la loi. François Fillon ne renoncera pas à l'élection présidentielle, il l'a affirmé lors de sa conférence de presse mercredi dernier. Mais oui, enfin, François est la seule alternative pour la France, il est le seul à pouvoir stopper la guerre civile qui mine la France. Petite allusion à ses propos sur les banlieues. Tout d'un coup, Marine Le Pen n'aime plus la police. Elle a refusé de se rendre à une convocation de la brigade financière concernant les affaires d'emploi fictif au Parlement européen. Elle a fait jouer son immunité parlementaire. De plus, sa chef de cabinet a été mise en examen. Le Salon international de l'agriculture a ouvert ses portes samedi 25 mars, il fermera le dimanche prochain, alors pour les férus d'agriculture, dépêchez-vous. Comme chaque année, c'est le rendez-vous incontournable des politiques qui espèrent tous récolter les voix des professionnels du monde agricole.
25 février, l'ouverture.
On termine la page France avec cette famille d'Orvault qui a disparu depuis le 16 février. Des traces de sang ont été retrouvées au domicile familial et les effets personnels de Charlotte, la fille, ont été retrouvés par une joggeuse près de Brest. Plus d'informations dans la presse de demain.
On passe maintenant à l'actualité locale.
Oui, le rapport d'enquête administrative suite à la saisie d'une importante quantité de produits stupéfiants au CTM, le centre technique municipal, va être rendu public. Il pointe de graves dysfonctionnements, dont des vols à répétition et un gardiennage totalement inefficace. Les expulsés du 168 avenue Président Wilson ont inauguré le Cheval Blanc, hôtel désaffecté et à l'abandon depuis 2014. Ils l'occupaient avant d'en être expulsés. Ils ont ensuite dormi sur le terre-plein central de l'avenue, puis s'en sont encore une fois fait expulser. Ils ont alors décidé de revenir au Cheval Blanc. Autre inauguration, le square Bernard Maris, professeur à Paris 8 et chroniqueur sur France Inter. Il a été assassiné par les frères Kouachi dans les locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Donc ce square a été ouvert en présence de Laurent Russier, maire de Saint-Denis. Il est situé à mi-chemin entre l'université et les archives nationales. Le JSD, le journal de Saint-Denis, recherche une rédactrice ou un rédacteur en chef. La fiche de poste est à consulter sur le site du Canard local. Vous trouvez le lien sur notre page www.associationdeclic.org. Yamina Zarou, la réalisatrice du film Ma part de France, dont nous avons déjà parlé ici, sera présente au cinéma L'écran de Saint-Denis avec Adil Jazouli, sociologue, pour débattre de son documentaire projeté juste avant. Ce sera donc le 16 mars à partir de 20h30 et c'est gratuit.
On passe au sport.
Oui, sport féminin, handball féminin, donc Metz défait 23 à 29 face au FTC Rail Cargo Ungario, donc en Hongrie.
Et puis on termine avec la météo.
Oui, moi qui suis arrivé trempé à la rédaction tout à l'heure, je vous assure qu'il va pleuvoir tout le week-end et je vous conseille de bien vous couvrir et de ne surtout pas faire mon erreur, faire du vélo. Living.
106.3.
Vous venez d'écouter Néné Chérie avec le titre Woman. Alors, on parle des femmes. J'ai rencontré Samia Orozean, donc c'est une comédienne humoriste qui fait du stand-up. Elle était à la ligne 13. Donc voilà, je vous propose d'écouter tout de suite ma petite rencontre et son interview.
Samia, bonjour.
Bonsoir.
Samia, tu as grandi à Clichy-sous-Bois et c'est au collège que tu tombes amoureuse du théâtre. Tu en fais ta passion et tu décides d'en faire un jour ton métier. Alors raconte-nous ce qui te plaît tant dans la comédie et puis un petit mot sur ton parcours.
Alors comme tous les artistes, je pense que je dois avoir un côté un peu égocentrique où j'aime qu'on me regarde. Et étant la numéro 5 d'une famille de 6 gamins, je pense qu'il fallait trouver sa place. Et la première fois que je suis montée sur scène et que j'ai réussi à tirer des larmes et que ça a étonné mes camarades, ben je me suis dit mais c'est ça que j'ai envie de faire en fait. C'est l'endroit où j'avais envie d'être pour briller. Et du coup, ben, ça a d'abord été une passion, en espérant un jour pouvoir en faire mon métier. Et aujourd'hui, ça commence à fonctionner. Je fais que ça, je fais plus rien à côté, donc je suis ravie.
Est-ce que tu avais déjà des actrices, des comédiennes qui t'ont donné envie?
Ouais, à l'époque, il y avait les Inconnus qu'on regardait à la télévision. Il y avait aussi Elie Kakou. Comme il est d'origine tunisienne, comme moi, bah du coup, ça a été un exemple parce qu'il utilisait des mots qu'on connaissait quoi, dans la famille. Donc, ça a été un espèce de modèle pour moi, effectivement.
Alors justement, l'image, c'est important. Alors, tu es d'origine tunisienne. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup, alors on dit les gens ici, des diversités, d'avoir justement ce retour d'image de quelqu'un qui nous ressemble. Alors, pour toi, c'était Elie, mais est-ce que tu avais des femmes? Il y en a beaucoup moins, en tout cas, dans la comédie, mais qui déjà t'attiraient vers la voix?
Dans l'humour, non. J'ai pas été attirée par des femmes spécialement, à part ma mère, qui était très drôle, et dont je parle dans mon spectacle. Mais sinon, non, c'est pas forcément des femmes qui m'ont inspirée. Bah, peut-être qu'il jouait le rôle d'une femme aussi, Elie Kakou, et il était drôle quand il jouait le rôle de la femme. Donc, je sais pas, mais je pense pas que ce soit forcément une question d'influence en termes de sexe. C'est pas ça. Moi, ce qui m'attirait, c'était faire rire, c'était transmettre des émotions, c'était jouer la comédie. Et du coup, je pense que ça a rien à voir avec le fait d'avoir vu un modèle qui m'a donné envie de le faire. Après, je conçois que ça puisse exister, parce que je sais qu'il y a certaines jeunes filles qui m'envoient des messages en me disant « Mais merci, tu représentes telle ou telle chose », alors que je suis même pas sûre de me représenter moi-même. Donc c'est un gros poids qu'on te met sur tes épaules, parce que tu t'attends pas à ça, en fait. Tu fais juste ce que tu as envie de faire, et puis après tu te retrouves avec plein de gens derrière toi qui disent « Hé, t'es notre porte-parole, quoi !» Et tu dis « Ouais, mais non, mais moi j'avais pas signé pour ça à la base, moi je voulais juste vous faire rire. » Donc c'est en même temps hyper valorisant, mais c'est aussi beaucoup de pression, parce qu'on se dit « Ah ben non, là du coup, je suis obligée de faire attention à tout ce que je dis, que je raconte pas n'importe quoi, ça met une certaine pression, quoi. »
Alors aujourd'hui, Samia, tu es une one-woman show talentueuse, mais aussi comédienne. Alors quand je dis comédienne de théâtre, les scènes, je sais qu'on en parle moins, on parle de Samia l'humoriste, mais il y a aussi Samia la comédienne qui pourrait monter sur les planches du théâtre. Je sais que tu en as fait un petit peu justement à l'école. Mais justement, pourquoi n'avoir pas continué dans le théâtre, proprement dit? Alors est-ce que c'était la difficulté de trouver des rôles pour une femme d'origine tunisienne et qui en plus porte le foulard?
Ben, c'était un peu tout ça à la fois. Moi, j'ai fait du théâtre au collège, mais après aussi au lycée, j'ai fait le conservatoire de théâtre à Paris. Donc vraiment, j'ai inclus un circuit assez classique et j'espérais pouvoir devenir comédienne. Mais je ne me vois pas jouer un rôle de tragédie française avec la dégaine que j'ai. Déjà, mon faciès ne passe pas trop. Moi, on ne m'a jamais pris pour jouer dans Racine ou dans... Parce que, enfin, quand on me prenait pour jouer des rôles au conservatoire, c'était que des rôles de bonne, de femme assez généreuse, exubérante, et qui pouvait entrer dans ce rôle-là. Donc déjà, peut-être le fait d'être corpulente avant d'être maghrébine ou foulardée, eh ben ça a déjà posé un handicap. Je pouvais pas jouer le rôle d'une fille qui était follement amoureuse d'un jeune premier, c'était pas possible, parce que ça collait pas avec ma silhouette, j'avais pas une silhouette de jeune première, quoi. Donc déjà, là, ça freinait les choses. Mais voilà, j'aurais bien aimé. Sauf que aujourd'hui les rôles sont réduits aussi bien par mes origines, par ma couleur de peau, que par le bout de tissu que je porte sur la tête. Ben, il y a plein de choses qui font que En France, en tout cas, ça risque d'être compliqué. Les seuls rôles qu'on pourrait me proposer, c'est celui de la maman maghrébine, mère de famille, avec un accent à couper au couteau. C'est tout. Tant que l'image qu'on se fait de la femme musulmane avec un foulard n'aura pas changé en France, je pense que j'aurai pas trop de perspectives d'évolution. En revanche, jouer dans le pays d'origine de mes parents, là, je pense qu'il y aurait une possibilité, parce que ça freinerait en rien et que je serais un individu comme tant d'autres et qu'il n'y aurait pas de différence avec les autres. Quoi. Je ne serais pas enfermée dans un cliché.
Alors justement, enfermée dans un cliché, on en vient, puisqu'en octobre 2014, après les attentats d'Ottawa au Canada, tu postes une vidéo intitulée « Message aux djihadistes » et la vidéo fait un buzz. Et là, tu es invité par toute la presse, par les grands médias, comme on dit. Alors est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui t'a un petit peu énervé, que finalement qu'on te mette en lumière que pour ça ?
En fait, ça m'a un peu déçue qu'on vienne me chercher à ce moment-là que pour ça. Mais je me dis, il n'y a rien qui arrive par hasard. Si c'est arrivé, c'est qu'il y a une raison. Après, j'avais une parole à porter. Et tant qu'on vient me chercher pour la porter, je la porte. Je ne vais pas dire, ah ben non, écoutez, vous venez me chercher maintenant que pour ça, ben c'est pas la peine. Non, ça faisait des années que je tenais un discours. Et on s'est intéressé à moi à partir de cette vidéo qui a fait du buzz. Ben je me suis dit, ben il est peut-être temps de dire tout ce que j'avais envie de dire depuis longtemps. Et donc, ben j'ai saisi au vol l'opportunité de pouvoir m'exprimer. Après, voilà, c'est à double tranchant. On risque encore d'être enfermé dans une espèce de caricature, mais en même temps, c'est à moi de savoir comment je me défends. Si j'arrive dans les médias et qu'on me présente comme l'humoriste voilé et que je reste enfermé dans ça, et que j'accepte et que je laisse faire, bah, au bout d'un moment, il ne faudra pas que je me plaigne. En revanche, si j'arrive et que j'arrive à faire rire les gens, comme ça s'est passé chez Ardisson, qui au départ dit l'humoriste voilé, mais que j'arrive à faire sourire avec 2-3 vannes, on finit par comprendre que c'est secondaire, ce bout de tissu. Qu'en réalité, moi, je fais juste mon travail de comédienne, que je suis humoriste, je suis là pour détendre un peu l'atmosphère. Et on s'arrête à mon travail. Après, tout est entre mes mains. Il y a ce que les autres vous renvoient, mais il y a aussi une part de responsabilité qu'on a en nous. Parce que les gens ne sont qu'un miroir de ce que nous, on dégage. Donc à partir du moment où nous, on se laisse enfermer, bah, effectivement, on va rester enfermé dans ça. Maintenant, bah, je suis dans un autre type de discours, et Dieu merci, ça commence à évoluer.
Il y a quelque temps, tu étais sur la scène de Clichy-sous-Bois. Alors Clichy-sous-Bois, je suppose que c'est quelque chose, enfin un endroit qui est cher à ton cœur, puisque tu as grandi là-bas. Ce soir, à la salle Ligne 13 de Saint-Denis, et tu es tous les mardis et mercredis au Point Virgule. Donc ça, c'est à Paris. Est-ce qu'il y a une différence de public entre, on va dire, la banlieue et Paris ?
Oui. Alors, en banlieue, ça devient accessible à tout un chacun. Et du coup, des fois, il y a des gens qui débarquent qui ne sont jamais allés au spectacle de leur vie parce que ça ne faisait pas forcément partie de leur culture ou de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Moi, j'ai, par exemple, il m'est arrivé une fois de jouer à Aulnay-sous-Bois, puis il y avait des mamans arabes, elles n'étaient jamais allées au spectacle de leur vie. Et il y a une maman marocaine qui s'est fâchée parce que je me moquais des marocaines et qui n'a pas capté la nuance et que c'était juste la subtilité de l'humour, en fait. Et donc, elle est venue me crier dessus, elle a râlé. Et bien elle, je l'ai incorporée dans mon spectacle et je parle d'elle maintenant sur scène. Et donc il y a une différence de public. À Paris, on a principalement des gens qui ont l'habitude de sortir, qui ont l'habitude d'aller voir des spectacles. Mais de temps en temps, il y a une petite maman qui s'égare par là, une maman d'Afrique subsaharienne ou une maman maghrébine qui a entendu parler de moi ou à la télé ou ailleurs et qui décide de faire le pas d'aller dans ce quartier du Marais dans lequel on ne s'attend pas à la voir en fait. Et c'est ça qui finalement devient magique, c'est que suite à la grosse médiatisation qu'il y a eu avec cette vidéo qui a fait du buzz, le public s'est élargi. Et donc maintenant que je joue au théâtre du Point Virgule, dans ma salle, il y a de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les nationalités. Et c'est magique. On va trouver une femme voilée, une femme d'Afrique subsaharienne qui a encore l'accent du pays. Juste à côté, il y aura un gay. Juste à côté, il y aura un barbu. Et c'est magique. Un franco-français d'une soixantaine d'années qui écoute France Inter, qui va lire Télérama. Et tous ces gens-là se mélangent tous ensemble. Et finalement, mon public est à l'image de la France d'aujourd'hui. Une belle France métissée et qui finalement est prête à rire de tout ensemble, quoi.
Et avec plein de femmes de couleur, qui est le nom donc de ton spectacle. Alors, je sais que tu as visité aussi d'autres pays. Est-ce que tu as déjà joué en Afrique ?
Oui. Alors, j'ai déjà joué en Afrique du Nord, mais aussi en Afrique subsaharienne. Donc, j'ai fait Algérie, Maroc, Tunisie, Sénégal, Cameroun, Gabon et Côte d'Ivoire.
Alors, comment ça s'est passé, l'accueil que tu as reçu là-bas ?
C'était magique. Je suis allée pour un festival du rire dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et ça s'appelle les Doves du Rire. Et c'est Yass, un Libanais qui est né au Sénégal, qui organise ces événements-là. Et du coup, par exemple, quand j'étais au Cameroun et que j'ai joué l'accent camerounais sur scène, les Camerounais ont applaudi. Pour moi, j'en ai eu des frissons, quoi. Je me suis dit, mais si je suis chez eux et que je les imite et qu'ils applaudissent, c'est que vraiment j'ai réussi, quoi. Et les pays d'Afrique subsaharienne ont toujours été chers à mon cœur. Moi, la question du wax, etc., j'ai grandi avec une malienne, c'était ma meilleure amie, et j'ai évolué avec elle, et je l'ai trouvée magnifique, elle et toute sa famille, et la chaleur humaine qu'il y avait chez eux, etc., ça m'a toujours subjuguée, en fait. Et du coup, je rêvais d'aller découvrir l'Afrique subsaharienne. Et quand on m'a proposé la tournée, j'ai pleuré. Je me suis dit, c'est tellement beau que c'est pas possible que ça m'arrive à moi. Et ça a été vraiment à la hauteur de ce que j'attendais. Je suis allée rencontrer les gens à l'intérieur des terres, j'ai essayé de m'imprégner de la culture locale, j'ai adapté mon spectacle à chaque fois avec des références culturelles de chez eux. Et du coup, ça a été vraiment magique. Et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir y retourner.
Alors, justement, il y a un sketch dans ton spectacle qui s'appelle Les accents, où tu imites plusieurs accents, la femme tunisienne, marocaine, femme camerounaise, ivoirienne. Alors, comment tu arrives à faire ça aussi juste, aussi précis au niveau des accents et de ces petites différences?
Je pense que c'est l'écoute. Et puis, on m'a dit aussi que j'avais ce qu'on appelle des neurones miroirs, qui permettent en fait de reproduire ce qu'on a l'habitude de voir, un peu comme a fait Ahmed Silla quand il est passé au Marrakech du Rire. Je pense qu'on s'imprègne des personnes qu'on regarde. Et donc, et puis aussi, il y a le fait que je suis comédienne et que je fais de la scène depuis petite. Quand je regarde les gens, j'arrive à les reproduire. Je pense que, je sais pas, c'est peut-être un don, et puis il y a peut-être aussi un peu de travail derrière, mais à force d'écouter les gens, à force de répéter, eh ben j'arrive à le faire. Et c'est drôle parce que un jour, par exemple, mon papa me dit, mais moi je comprends pas, les Noirs, tu te moques d'eux, et eux ils rigolent. Je dis, mais papa, t'as pas compris, je me moque pas. C'est parce que j'ai tellement de respect pour eux, je les aime tellement, que je fais l'effort de les écouter et de connaître les nuances qu'il y a entre les accents. Je dis, c'est comme si toi, demain, un Asiatique, il venait te voir et qu'il te disait, le Tunisien, il parle comme ça, l'Algérien, il parle comme ça, le Marocain, il parle comme ça. Tu dirais pas, mais attends, mais comment il sait? Je dis, bah là, c'est la même chose. En fait, tu peux reproduire et imiter les gens que si tu les aimes vraiment.
Alors, Samia, pour terminer, quel message t'as envie de faire passer?
Un message surtout d'amour. Je pense que le monde en manque cruellement, ça peut paraître très cliché, mais moi, c'est ce que je transmets à travers mon spectacle. C'est vraiment de l'amour que je donne, et j'essaye de réunifier tout le monde en se moquant de tout un chacun, en se moquant des juifs, des musulmans, des cathos, des noirs, des blancs, de tout le monde. Finalement, on montre qu'il y a des tares chez tout un chacun et qu'on est tous similaires en réalité. Et donc, comme tout le monde s'en prend plein la figure, pendant le spectacle, à la fin, ils sont tous hyper heureux, ils ont tous ri les uns des autres et on rit tous ensemble. Et donc, c'est vraiment ça que je cherche à transmettre, de montrer que malgré nos couleurs, malgré nos origines, malgré nos cultures et nos croyances, on est tous des êtres humains et on a tous finalement cette fibre d'humanité en nous qu'il faut qu'on partage.
Samia, dans un spectacle, tu dis avoir voulu être noire quand tu étais petite. Alors, est-ce que tu as réussi ?
Mon ami, le langage, ça passe, mais le reste ne veut pas. Quand je vais en Afrique subsaharienne, là, les hommes se retournent sur mon passage. Le fait que je sois plus claire de peau, que j'ai les mêmes formes que les femmes d'Afrique subsaharienne, là, j'attire le regard. Donc ça, déjà, c'est un bon point. En Afrique subsaharienne, je suis une bombe sexuelle. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, là, le type, un garçon, il me regarde et me dit, ah, mais pourquoi tu t'habilles large comme ça? Donc nous, on n'a pas le droit de voir comment Dieu t'a faite. Pourquoi tu t'habilles pas avec des vêtements serrés, non? J'ai dit, mais mon frère, le gars, il a osé me le dire en face, quoi. Il n'y avait pas d'hypocrisie à la française où on attend que la fille se retourne, tu vois. Non, 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 il me l'a dit en face. Mais pourquoi tu t'habilles large comme ça? Donc, si je suis à leur goût, je pense que ça va, je commence à le devenir, non? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en dis?
Presque, presque, tu y es presque. Alors, on peut dire, finalement, Samia, c'est une femme de couleur.
Ouais.
Merci beaucoup, Samia.
Merci à toi.
Parler de ma vie, vous dire un peu d'où je viens, qui je suis une femme de couleur. Je viens de là où le soleil brille, où les gens se parlent sans se connaître. Les vagues ramènent l'écho de la vie, et les oiseaux chantent à la fenêtre. Le parfum de la liberté, l'enfant au visage métissé qui regarde son père pour voir comment faire. Les bons conseils qui feront de lui le grand frère. Le sable chaud qui réchauffe les cœurs. De simples mots pour parler de bonheur. Ces mémoires qui redonnent le sourire. L'envie de vous chanter mes souvenirs. Vous parler de ma vie, vous dire d'où je viens. Qui je suis une femme de couleur. J'ai mon lit au fond du cœur. Faut en parler, en parler. Vous parler de ma vie. Je viens, qui je suis une femme de couleur. J'ai mon lit au fond du cœur, faut en parler, en parler. Je viens de là où le soleil brille, où les gens se parlent avec le cœur. Le vent des îles a fait de ma vie un océan de couleurs. Cultiver la différence, s'éloigner de l'intolérance, affronter mes peurs en pensant au calme, à la douceur, en chantant le sable chaud qui réchauffe les cœurs. De simples mots pour parler de bonheur, c'est mes mots qui redonnent le sourire, l'envie de vous chanter mes souvenirs, vous parler de ma vie, vous dire à vous d'où je viens, qui je suis. Je suis une femme de couleur, j'ai mon île au fond du cœur. Faut en parler, en parler, vous parler de ma vie, vous dire à vous d'où je viens, qui je suis. Je suis une femme de couleur, j'ai mon île au fond du cœur. Faut en parler, en parler. Radio Décrit 106.3 tous les premiers, troisième, cinquième vendredis du mois
de 18h à 19h sur 106.3 ou www.associationdeclic.org. Juste avant qu'on retrouve CZ pour ses pépites, on doit le remercier parce que voilà, on est deux femmes aujourd'hui à la radio, ce sont Flo et Trésor. Et puis voilà, CZ nous a offert pour cette journée, puisque je vous rappelle que Radio Déclic fête son 8 mars aujourd'hui, nous a offert deux somptueux bouquets rosiers, deux petits rosiers. On mettra les photos sur Facebook. En tout cas, merci beaucoup CZ, un gros bisou de la part de Trésor et
merci
de la mienne.
Merci beaucoup.
Eh bien justement, CZ, c'est ton tour.
Voilà.
Alors ne nous déçois pas, hein. Continue. Non.
Justement, je vous pose le décor. On est le 14 février 2017, à Lieusaint, en Seine-et-Marne, au restaurant L'Hippopotamus. Une jeune femme de 20 ans se fait inviter par son compagnon. C'est la Saint-Valentin, ça s'annonce merveilleusement bien. Pas de PSG-Barça ce soir-là, mais une soirée au restaurant. Ce qui s'annonçait comme un dîner des plus romantiques a pourtant viré au cauchemar. Au moment fatidique de payer, son compagnon a fait ce qu'on appelle un resto basket, la laissant en plan avec une addition de 60 euros.
Aïe.
Elle a été placée en garde à vue. La police n'a pu que constater qu'elle était une simple victime d'un goujat affamé. La jeune femme a bien sûr tenu à préciser que leur couple ne survivrait pas.
On passe à une deuxième pépite ?
Oui, donc on part aux États-Unis. Un Américain, donc Bob Hoffman, a eu des sueurs froides en apprenant que sa femme venait tout juste de faire don de l'une de ses chemises à une association. Non pas que l'homme de 65 ans soit particulièrement attaché à ce vêtement ou qu'il rechigne à faire des dons, mais il a pris pour habitude de se servir de cette chemise comme d'une cachette. Alors mes amis autour de la table, pour vous, qu'est-ce qu'il y avait dans cette chemise ?
Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette chemise ? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans une chemise ? Philo, tu as une idée ? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette chemise ? Pas d'idée, mais dis une idée peut-être ?
Ah, peut-être de la drogue ?
Non, pas de la drogue.
Trésor, une idée ?
Pas de l'argent ?
On ne sait pas. Et Georges, vous avez une idée ? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ?
Je me dis peut-être des vêtements des femmes cachés dedans.
Ah, des sous-vêtements, le petit malin.
Alors non, c'est Trésor qui est proche. Parce qu'en effet, il y avait une enveloppe avec environ 8 000 $, donc l'équivalent de 7 500 € dedans.
Wow.
Pendant 6 ans, Bob a ainsi épargné afin de pouvoir offrir un voyage en Italie à sa femme. Il aurait alors caché l'argent dans cette vieille chemise qu'il ne portait plus, pensant que sa compagne, ne la trouverait pas. Alors bien entendu, lorsque le mari a compris ce qu'il s'était passé, tant pis pour la surprise, hein, le couple s'est alors rendu à l'association pour expliquer la situation. Mais sur place, la fameuse chemise orange se montre introuvable. Il a fallu chercher jusqu'au lendemain pour remettre la main sur le vêtement qui contenait toujours l'enveloppe.
Mais dis donc, en même temps, on comprend pourquoi il la mettait plus, une chemise orange.
Oui. C'était pour le voyage en Italie.
On continue, on poursuit avec Trésor. Alors Trésor, tu nous parles de transport en commun.
Des femmes dans le métro. Mesdames, vous avez bien du courage de prendre les transports en commun. Vous avez échappé aux bousculades, aux pickpockets et aux chanteurs approximatifs. Le pire reste à venir. Le métro est plein. on rentre les fesses, les seins, on prend un air dégagé pour ne pas avoir l'air de fixer ce visage qui est à 10 cm du vôtre et on essaie par de légers mouvements de reptation de se décoller du frotteur qu'il a dans votre dos, profite du wagon bondé pour faire plus ample connaissance. Vous êtes témoin volontaire d'une conversation plutôt épicée entre ados à propos des filles et par-dessus une épaule d'une vidéo porno visionnée par un de vos voisins. Un type hurle au téléphone en pleine scène de ménage. Vous compatissez avec sa femme. Enfin, l'horizon se dégage. Le wagon se vide et vous vous précipitez vers une place assise. Placée contre la vitre, heureuse de pouvoir respirer. Vous décidez d'ignorer le gamin surexcité qui vous bourre les genoux de coups de pied répétés. Et là, patatras, un type s'assoit à vos côtés et écarte les cuisses, vous écrasant sur la vitre comme une crêpe. C'est quoi ça? Le mainstreaming. Cette étonnante nouvelle habitude des messieurs dans les transports en commun. Donc ça consiste au fait de s'asseoir en écartant les jambes de façon absolument exagérée, bien évidemment. Ça a l'air anecdotique, mais le métro new-yorkais a décidé de lutter contre cette incivilité. Donc, dans cette nouvelle Amérique trumpienne, les réactions des mal-offusqués fusent parce que des panneaux ont été affichés dans le métro. Et donc, ils ont fait appel à un groupe de recherche pour expliquer le fait que les hommes étaient forcés d'écarter les jambes dans le métro. Bref.
Il y a n'importe quoi. En tout cas, on a toutes connu ça hein, dans les transports, que ce soit le métro ou le bus aussi. Mmh. Voilà, alors il n'y a pas besoin d'écarter les jambes comme ça. Déjà, ça prend de la place, d'une part. Et puis, ça ne va pas partir. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Ça ne va pas s'envoler. Hein.
Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ne font pas ça quand il y a deux hommes côte à côte.
C'est vrai. C'est vrai. Surtout, chaque fois, en fait, qu'il y a une femme à côté ou une jeune fille,
oui.
Voilà.
Ben
dis donc,
c'est très curieux.
S'il vous plaît, donc fermez les jambes, croisez les jambes, je ne sais pas, faites quelque chose, mais en tout cas, c'est très désagréable et voilà, ce n'est pas sexy du tout et ce n'est pas comme ça que vous aurez des 06 en tout cas. Hein. Georges, vous vouliez une réaction?
Non, je disais, c'est de comportement ancien, ce n'est pas poli.
Oui.
Dans un groupe comme ça, c'est le métro, c'est pour tout le monde. Donc, il faut avoir un comportement qui est digne de tout le monde, soit homme ou femme.
C'est vrai. Eh ben, on continue en musique.
There is always a silver lining. Blessed are those who know what it is. We think that we need everything. The love is found in the wrong kind of dreams. There's always time to ask for help. There's always space to find your ways. Sometimes you wait for the storms ahead, and sometimes you hide or you run away. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Go ahead, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Let go, clap your hands. Because we're afraid of losing, we have lost the meaning of sharing. But with love there is something to win. Today might not be as hard as it seems. There's always room to make mistakes, not always time to make amends. There is no shame to ask for help, and there's always hope in a lending hand. Clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, let go, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, let go, clap your hands. Take a chance, don't be scared to make a change. Take a chance, don't be scared to make a change. Oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, go ahead, clap your hands. Oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, let go, clap your hands. Oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, go ahead, clap your hands.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Radio Déclic 106.3. Vous venez d'écouter Imani avec le titre Silver Lining.
Et tout de suite sur Radio Déclic,
la chronique de Georges.
La chronique de Georges.
La chronique de Georges. C'est maintenant.
Alors Georges, on parle bien évidemment d'une grande femme qui a fait la France, en tout cas qui a contribué à pas mal de choses pour la France.
Vraiment, tu as bien défini l'équipe de la femme. Mais avant de parler de ça, comme vous avez dit, le 8 mars, c'est la fête de la femme, à toutes les femmes. C'est parce qu'un jour, elle devrait avoir tous les jours que soit fête de la femme, parce que c'est elle. Quelqu'un à l'avenir des hommes et des autres. Aujourd'hui, on va essayer de parler un peu d'une femme qui s'appelle Louise Michel. Louise Michel, c'est une fille née hors mariage d'un monsieur qui s'appelait Robert Desmahis, un châtelain. Il y a qu'ils disent, c'est le châtelain lui-même qui l'a fait l'enfant, et il y a qu'ils disent, c'est son fils qui l'a fait l'enfant. En tout cas, l'enfant est né du châtelain, et une servante qu'il travaillait dans le château, qui s'appelait Marianne Michel. Lorsque la fille est née, 1830, était élevée par les grands-parents de Châtelain, au château. Et ma foi, Louise, elle a reçu une éducation formidable, une éducation libérale, à la maison. Chez elle, elle lisait Voltaire, Rousseau. Elle avait une connaissance vaste et elle voulait cette connaissance qu'elle avait de transmettre aux autres. À l'âge de 20 ans, 1850, les grands-parents décèdent, les pères aussi est décédé. Le reste de la famille l'ont chassé. Parce que, comme était l'enfant naturel, elle n'avait pas droit à l'héritage. Donc, on l'a chassé, elle lui a donné un peu d'argent. Et lorsqu'elle est sortie, la première chose qu'elle a faite, elle a fait une école et enseigné dans cette école les enseignements qui leur correspondaient aux garçons et aux filles ensemble. Parce que dans cette époque, les filles, par leur éducation, elles les préparaient pour mariage. Donc, il fallait la couture, la cuisine, des choses manuelles. Elle a dit non. Parce que son but, elle disait toujours que les femmes doivent vivre de leur travail. Comme ça, pour qu'elles soient autonomes. Elle a resté son école 3 ans là-bas, et après elle est revenue à Paris. Et à Paris, elle a travaillé dans une institution de Madame Vallière. Elle a resté aussi 3 ans. Dans le même temps, elle suivait des cours du soir pour avoir une connaissance plus large, pour avoir plus capacité de transmettre la culture aux autres. Ma foi, elle commence à écrire dans le journal, écrire des poèmes. Même elle envoyait de ses poèmes à Victor Hugo dans cette époque. Et elle devient connue dans la société. Mais malheureusement, toujours, d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont aussi, qui ne l'aiment pas. Donc finalement, sa vie, c'est-à-dire, commence à se gâter parce qu'elles ont porté plainte contre elle, c'est-à-dire les adversaires, parce qu'elle était une femme. Or, normes, c'est-à-dire vis-à-vis le comportement d'autres femmes. Elle manifestait beaucoup dans la rue, elle montrait, elle répondait, elle questionnait déjà. Elle était quelqu'un qu'elle voulait sortir de l'autorité de l'homme. Et finalement, pour l'obliger de se taire, elles ont incarcéré sa mère. Et pour le français, si tu veux qu'on libère ta mère, il faut que tu taires.
Une sorte de pression, finalement.
La pression, c'est elle, exactement. Elle a dit non, je vais libérer ma mère, même par la force. Elle était allée pour libérer sa mère et finalement, elle était condamnée pour être envoyée à vie au bagne à Nouvelle-Calédonie. Elle part à Nouvelle-Calédonie. Là-bas, il y avait une dame aussi envoyée au bagne là-bas et la dame qui s'appelait Nathalie Meller, était là-bas. Elle était anarchiste. Donc, et il a pris Louise Sassou-Coupole et il a dirigé pour vraiment être à l'écart, c'est-à-dire de la société, toujours dans la manifestation et tout. Après 10 ans, de Bagne, il est revenu en France et était reçu comme un sauveur par toutes, surtout les ouvriers, les chômeurs et tout, parce qu'il les défendait. Et ainsi, il a recommencé à faire une autre école, troisième fois. Et malheureusement, ses difficultés étaient énormes. Donc, il a essayé de quitter la France pour aller en Angleterre. En Angleterre, il a fait une école aussi libérale là-bas. Et les Anglais aussi étaient réticents d'ouvrir la porte devant les filles, parce qu'elles, son but est l'éducation, la vie, les filles pour vivre heureuses par leurs propres moyens. Revenu à Paris, incarcéré. Et cette fois-ci, heureusement, il y avait Georges Clemenceau, il est intervenu, ils l'ont libéré. Lorsqu'il a été libéré, il commence à être connu. Il circulait par toute la France, il faisait des conférences, il faisait des débats. Il écrivait des livres, surtout pour les enfants. Il écrivait des poèmes. Et en arrivant à Marseille, dans le sud, malheureusement pour elle, il est tombé malade. Et malade de pneumonie, est décédé là-bas en 1905. Son corps a été emporté à Paris. Et il est enterré dans le cimetière de Levallois. 120 000 personnes ont suivi son cercueil. 120 000 personnes dans cette époque. Et actuellement, des écoles, des rues, des stations de métro, elle est la seule femme qui possède une station de métro à son nom dans toutes les stations de métro de Paris. En résumé, la vie de cette dame, à vrai dire, c'est pas phénoménal. Mais pour nous, dans notre époque actuellement, il n'y a que la lutte. Mais c'est pas la lutte anarchique, c'est pas contrarier le pouvoir. Mais il faut faire tout dans la science, dans la connaissance, l'école, avoir un métier, un travail et vivre de son travail. Ce que je souhaite pour toutes les femmes et surtout ce que je souhaite pour toutes nos filles qu'elles prennent comme exemple d'être bien travaillées, persévérer dans le travail, ainsi un jour elle aussi sera heureuse et tout, lorsque la fille, la femme, la mère, elle est heureuse, toute la société, elle sera heureuse. Ce que je souhaite à tout le monde et à tous dans nos rois.
Merci, Georges.
Je prends la ligne D du RER et R dans les rues sévères d'une ville pleine de caractère. Prends la ligne 13 du métro et va bouffer au McDo dans les bistrots d'une ville pleine de bonnes go et de gros clandos. Saint-Denis, ville sans égal. Saint-Denis, ma capitale, Saint-Denis, ville peu banale.
Ou à Carrefour, tu peux même acheter de la choucroute.
Halal.
J'espère qu'on t'a convaincu. Et si tu nous traites de parisienne, je t'enfonce mon archet dans...
Phénoménal freestyle du visage pâle partout et de retour au Artout. C'est parti, ça vient de Saint-Denis. Direct, issu de la génération funky taquini. Pas de soucis, non pas de chipi ici. Pas de chichi si tu dérapes, on te
chie dessus. Trop de blabla, trop de plagiat.
Trop de merde sont étiquetés, peu ras, mais c'est comme ça qu'on nique tout.
Le BNF, le business, mais c'est pendant qu'on laisse couler que les pénales s'engraissent.
Et ceux qui ne voient le hip-hop qu'avec des samples de pop. Et tout cela je les stoppe à base de pop 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 pop.
Sen, sen, sen.
Fous donc ton gilet pare-balles à base de pop 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 pop. Et pour le hip-hop je développe la scène Saint-Denis, c'est la bombe bébé. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au débire.
Sen, sen, sen.
Fous donc ton gilet pare-balles à base de pop 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 pop. Et pour le hip-hop je développe la scène Saint-Denis, c'est la bombe bébé. Si t'as le pédigré, ça se reconnaît au débit.
Saint-Denis, Saint-Denis, fond, fond, fraîche. Saint-Denis, Saint-Denis, fond, fond, fraîche.
Radio Déclic 106.3.
Fréquence Paris Pluriel.
On vient d'écouter un extrait du morceau de L.E.J. Sen-Sen Saint-Denis. Alors évidemment, c'est une reprise, des remixes à la façon L.E.J. On continue avec les pépites de CZ et puis on sait que l'argent ne fait pas le bonheur.
Tout à fait. Donc on va en Angleterre voir Jane Park qui à l'époque avait âgé de 17 ans lorsqu'elle s'est retrouvée sa vie s'est trouvée totalement chamboulée, car elle n'était pas encore majeure et elle a gagné à l'Euromillion. Ce fut d'ailleurs la plus jeune gagnante à l'Euromillion. Donc elle raconte qu'elle pensait que ça allait rendre sa vie 10 fois plus attractive, mais en réalité, c'était 10 fois pire. Donc c'est que la vie est dure pour l'adolescente, qui profite de son argent pour s'acheter des sacs de luxe, un chihuahua, qui finira chez sa tante d'ailleurs, un Range Rover violet, une paire de seins flambant neuf, et plein d'autres choses qui ne parviennent pourtant pas à la rendre heureuse. Même en amour, elle confie que l'argent a tout gâché. Le plus dur serait le regard des autres, entre ceux qui se rapprochent d'elle par envie et ceux qui la méprisent par jalousie. Elle se sent constamment épiée. Elle est loin, il est loin le bon temps où elle vivait avec sa mère dans un modeste de pièces. Alors aujourd'hui, âgée de 21 ans, elle prévoit donc de porter plainte contre les organisateurs de la célèbre loterie. Elle explique que cette rentrée soudaine et massive d'argent a tout bonnement ruiné sa vie. Selon elle, une personne aussi jeune ne devrait pas être autorisée à gagner. Elle estime que devenir millionnaire en si peu de temps ne lui a pas appris la valeur des choses.
Bon, ben, elle aurait dû me le donner, me le confier. Moi, plus âgé qu'elle, j'aurais su quoi en faire.
Moi aussi.
Alors on continue, on parle d'Eliott. Alors Eliott, c'est pas le dragon, hein ?
Non, c'est pas le dragon, c'est un vendeur de 38 ans, un habitant du pays de Galles, donc en Angleterre. Donc Eliott, bah, il a eu le choc de sa vie en découvrant que sa femme venait de se marier en cachette avec son amant, via des photos de la cérémonie postée sur Facebook par l'épouse Bigam. Donc Lisa, 35 ans, a eu beau expliquer à son époux qu'elle ne portait pas une robe de mariée, mais qu'elle était demoiselle d'honneur au mariage d'une amie. Le mari, donc du coup, ulcéré, a porté plainte. Le juge du tribunal donc, a dénoncé l'égoïsme de l'épouse Bigam et sa tromperie et l'a condamnée à 120 heures de travaux d'intérêt général. Donc Lisa, du coup, a dû quitter le confortable domicile conjugal numéro 1 pour aller s'installer avec son mari numéro 2 dans un logement social.
Eh ben dis donc, hein, évidemment, quand on parle de femmes bigames, ça dérange, mais quand on parle de polygamie masculine, ça dérange personne. On finit en beauté avec Philo. Et Philo, toi, tu as choisi de mettre en avant une actrice.
Oui, Viola Davis, une femme que j'aime beaucoup et qui m'épate à chacune de ses apparitions à l'écran. Et donc, je vais commencer par trois chiffres. 21, 73 et 8. Est-ce que ça vous parle ?
21, 73 et 8, c'est Z.
Oui, c'est les chiffres. Du coup, je suis millionnaire, j'ai oublié de vous le dire.
Ah, c'est les étoiles d'Euromillion, non ?
C'est ça.
Non. Point. Je ne sais pas. 20, alors, 21, c'est pas son âge, donc je ne sais pas. Tu vas nous dire la réponse. 73, j'ai une petite idée. Ça, je pense que c'est le nombre de films. 08, je ne sais pas, c'est mon mois de naissance.
Ah, moi aussi.
Bon, ça n'a rien à voir. Et 21, je ne sais pas.
Oui, donc ben, 21, c'est ses années de carrière. Donc 21 ans de carrière. Tu avais raison. 73, c'est les films et séries tournées. Et 8, c'est les prix qu'elle a reçus.
8 prix.
Oui, 8 prix. Dont un Tony, ça s'appelle un Tony. C'est un prix pour le théâtre américain. Dans le rôle qu'elle a joué dans Fence, parce qu'avant qu'il soit en salle, il a été tourné, il a été joué 114 fois à Broadway.
D'accord. Donc alors non seulement elle est actrice, mais aussi comédienne.
Voilà. Et donc moi je vais pas vous parler de sa vie, hein. Je vais juste vous parler de quelques-uns de ses films. Bon, si vous voulez savoir brièvement, donc elle est née en Caroline du Sud. Issue d'une famille nombreuse de 6 enfants, sa mère était bonne et son père était dresseur de chevaux. Et donc elle n'a eu de cesse de combattre la vie depuis son enfance, qu'elle déclare dysfonctionnelle et d'une pauvreté abjecte. Je cite « J'étais une de ces 17 millions d'enfants dans le pays qui ne savent pas quand viendra le prochain repas. J'ai tout fait pour avoir de la nourriture. J'ai volé, j'ai grimpé dans d'énormes poubelles avec des clochards. Je me suis lié d'amitié avec des enfants dans le quartier dont les mères cuisinaient 3 repas par jour. C'est ce qu'elle a dit lors d'un discours très éprouvant pendant un déjeuner de charité en 2014. Donc voilà, moi je passe au sujet que j'ai choisi sur sa vie. Donc sa filmographie. Donc, si ça peut intéresser les cinéphiles ou simplement les fans de Viola. Hein. Donc, alors, j'ai fait une sélection de quelques-uns de ces films que je vous invite à regarder. Alors, le premier, c'est Anton Fischer, un film américain réalisé par Denzel Washington, sorti en 2012. C'est l'un de ses premiers rôles à l'écran dans le troisième film, on va dire. Il y a Custody, qui veut dire la garde, par James Lapin, sorti le 17 avril 2016, où elle joue le rôle d'une juge. Il y a Get On Up de Ted Taylor, sorti en 2014.
Oui.
Là, elle a le lourd rôle de la mère de James Brown.
Voilà, parce que Get On Up, ça reprend l'autobiographie de James Brown.
De James Brown, et d'ailleurs, lui aussi, il est né en Caroline du Sud, au passage. Et donc, elle joue le rôle de sa mère qui l'a abandonnée depuis son plus jeune âge. Il y a Lila et Eve, sortie en 2015, où elle joue aux côtés de Jennifer Lopez. Et dans une histoire dramatique de deux mères de famille qui subissent la perte de leur enfant, et elles décident toutes les deux de se venger. Donc là, c'est un autre rôle dans lequel on n'a pas l'habitude de la voir. Hein. Il y a aussi De leurs propres ailes, du titre original One Back Down, sorti en 2012, où elle interprète une enseignante qui se bat pour permettre aux professeurs comme aux élèves de retrouver les valeurs de l'école et de l'éducation face à une bureaucratie puissante mais démissionnaire. Le fameux 26 octobre 2011, nous avons eu droit à la sortie du film qui a obtenu 9 prix et 27 nominations, dont celle du film le plus émouvant, c'est La couleur des sentiments, également de Ted Taylor. Et d'ailleurs, lors des Oscars Academy Awards 2012, on lui décerne l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film. Un très beau film dramatique, mais très bien interprété dans ce rôle de domestique aux côtés d'Octavia Spencer. Un autre rôle où j'ai été vraiment bluffé par son jeu, c'est dans la série, excusez mon anglais d'avance, donc, How to Get Away with Murder, alias Murder. D'ailleurs, j'ai une réclamation à faire aux chaînes télévisées, si vous pouviez remettre ma série, s'il vous plaît.
L'appel est lancé.
Voilà. Donc la série Murder qui veut littéralement dire comment échapper à une condamnation pour meurtre. Donc là, elle joue le rôle d'une avocate de renommée à la tête de son propre cabinet.
Très bonne série d'ailleurs. Je conseille à tout le monde, à nos auditeurs et auditrices, de regarder cette série quand ils la remettront. En tout cas, il y a aussi sur le net, on peut aussi trouver.
Oui. Donc, il y a plein de rebondissements dans cette série, vraiment à regarder. Et elle obtient aussi plusieurs prix de la meilleure actrice dans une série dramatique. Et pour finir, très récemment, ben, il y a eu la sortie donc, du film Fence, c'est comme ça, de Denzel Washington, encore où lui-même il joue l'acteur principal et donc
le
à
rôle,
ses côtés.
Le rôle principal.
Le rôle principal. Et donc, elle joue le rôle de sa femme dans le film. Et là aussi, elle a obtenu un Oscar pour la meilleure actrice secondaire
oui, parce
pour
qu'en,
ce film.
En fait, tous ces films, elle a vraiment de très bons rôles hein, dans ces films, et des rôles forts et de femmes fortes. Et je sais qu'elle s'est distinguée aussi récemment pendant la cérémonie des Oscars, je crois, où elle a eu un très, très beau discours, encore une fois, et très engagée en direction et des femmes et de la communauté noire américaine.
Oui, c'est ce que j'admire chez elle aussi, notamment. Et bien, pour finir, j'ai ma petite surprise que je vous avais dit la dernière fois. C'est un petit poème pour vous, les femmes.
On est gâtés aujourd'hui. Hein.
J'écris aujourd'hui. Hein.
Donc, Georges, il a raison, il faut que ce soit plus souvent et plus longtemps. Pas qu'une journée.
Ah ben, moi, il n'y a pas de souci. Hein. ça s'appelle Petit bout de femme. Petit bout de femme, tu as la grandeur de cette dame qui brandit la flamme depuis ses années d'âme. De tout horizon et de toute culture, tu es la raison que les hommes censurent. Mais tel un poison que tu susurres à nos veines, ce passé de ton être serait bien là une grande graine. Car au-delà de tes formes, au-delà de la norme, à bien des égards, tu es bien plus grande que l'homme.
Oh, merci beaucoup. Alors merci pour, au nom de beaucoup de femmes. On te remercie en tout cas déjà des deux seules qui sont ici.
Voilà.
Ben merci Philo, merci pour ce texte et puis voilà de nous avoir parlé aussi de cette très belle actrice. Mmh. Et puis bon, on va finir avec deux pépites encore CZ et on va parler d'un Bart, mais qui n'est évidemment pas Simpsons.
Tout à fait, voilà. Donc Bart est un python domestique. Donc Ashley, sa maîtresse, une adolescente de 17 ans. Alors qu'elle prenait une série de selfies avec l'animal à proximité d'elle, Bart s'est engouffré dans le trou de son lobe d'oreille. Alors le trou de lobe d'oreille, c'est, vous savez, c'est le trou créé par le port d'un écarteur d'oreille. Donc il y a plusieurs dimensions pour afin que le lobe d'oreille soit un peu grand. Voilà. Donc ne parvenant pas à faire sortir son python naturellement, l'adolescente s'est résignée à appeler les secours. Les pompiers ne sont pas parvenus à libérer Bart non plus. Donc du coup, elle a été transportée aux urgences, où là, des médecins ont pu libérer le serpent grâce à du lubrifiant.
Et maintenant, on part à Toulouse.
Oui, on part à Toulouse, donc en Haute-Garonne, où une femme de 45 ans s'est rendue au commissariat pour une raison totalement stupide, puisqu'elle s'est présentée avec 3 sachets de drogue en vue de faire vérifier la qualité des stupéfiants par les policiers. Donc elle a déposé sur le comptoir 2 sachets de cocaïne et 1 sachet de crack. Donc bien sûr, immédiatement arrêtée, elle a déclaré avoir commandé la drogue via Internet avant de revenir sur sa déclaration et expliquer l'avoir achetée auprès d'un dealer. Donc la quarantenaire, déjà connue des services de police pour sa consommation de drogue, a été arrêtée et placée en garde à vue dans la foulée. Quant à la drogue, elle a été théoriquement détruite après avoir été confisquée. Et comme disait Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs, les cons, ça hausse tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Voilà les pépites de CZ. Alors pour terminer, hein, puisqu'on parle des femmes, voilà. Donc j'ai repris un peu les années de naissance de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Alors je ne vais pas vous dire à qui correspond telle année, mais simplement je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé comme événement marquant pour ces années. Puis à vous, vous pouvez jouer si vous voulez de replacer à qui est l'année de quel chroniqueur. En tout cas, on commence avec l'année 1944, c'est le droit de vote et l'éligibilité pour les femmes. Donc ça fait pas si longtemps que ça finalement qu'on peut voter. Donc ça, c'est l'année d'un ou d'une chroniqueuse. Ensuite, il y a 1960. Alors 1960, c'est la maternité heureuse qui avait été fondée en 56, qui devient en 1960 le mouvement français pour le planning familial. En 1965, les femmes mariées peuvent exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. Pour 1976, la mixité devient obligatoire pour tous les établissements. Et puis en 1991, Edith Cresson, première femme Premier ministre. Et puis pour notre Benjamin, notre petit, le plus jeune de nos chroniqueurs, c'est 2001, l'augmentation du délai légal de l'IVG, donc de 10 semaines, passe à 12 semaines. Voilà, Mehdi.
Et puis pour Edith Cresson, je pense que ça a été la première et la seule aussi.
Premier ministre ? Oui, tout à fait, femme Premier ministre, oui, c'est vrai. La seule et la première, mais on a eu une garde des Sceaux, Premier ministre, femme qui de plus, noire. Donc ça avance, hein, tout doucement, ça met du temps, mais ça avance, ça avance. Alors juste un petit tour de table, je vais vous dire le mot femme et puis vous allez me trouver un adjectif. Césaire, si je te dis femme.
Sublime.
Philo, femme.
Précieuse.
Trésor, femme.
Essentielle.
Georges, femme.
L'origine.
Mehdi, femme.
Intelligence, mais pas pour toutes.
Hein. Il n'a pas l'air convaincu, hein. Alors, je recommence. Mehdi, femme.
Ah, intelligence, allons-y.
Avec plus de conviction, quand même.
Intelligence.
Voilà, ok. Eh bien, en tout cas, c'est la fin de l'émission. On se retrouve dans 15 jours. Restez à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3. L'émission qui suit, c'est L'Envolée. Et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver le podcast sur www.associationdesclics.org. Salut, bye bye.